Bonjour, je suis François Bunel et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à tous et bienvenue dans La Grande Librairie. Et si pour goûter pleinement la vie, les joies et les plaisirs de l'existence, il fallait en réalité voir et comprendre que dans le paysage, eh bien, la mort est là. On peut parler de la mort sans que ce soit triste, vous savez. Je vous propose ce soir trois livres lumineux qui offrent, sinon une consolation, du moins des pistes de réflexion pour vivre mieux lorsque disparaît un proche, un être aimé, et peut-être quand on disparaît soi-même. Bonsoir Delphine Horvilleur.
Bonsoir.
Ravi de vous accueillir. « Vivre avec les morts », c'est le titre de votre livre qui paraît chez Grasset et qui célèbre à la fois la puissance de la vie et celle des mots. C'est peut-être là d'ailleurs que se trouve la consolation. Vous êtes Delphine Horvilleur, l'une des rares femmes rabbins de France, et à ce titre, vous accompagnez les mourants et les endeuillés au quotidien. J'ajoute qu'avant de devenir rabbin, vous avez suivi des études de médecine et nous en reparlerons, car il n'est pas impossible qu'il y ait un lien entre tout cela. Jean-Marie Laclaftine, bonsoir.
Bonsoir.
Jean-Marie Laclaftine, alors éditeur aux éditions Gallimard, écrivain, auteur d'une œuvre romanesque importante, vous publiez un récit absolument passionnant consacré à votre sœur, morte à l'âge de 20 ans, il y a plus de 50 ans. 50 ans de silence familial que vous brisez dans un livre intitulé « L'ami de la famille », dont la publication, il y a 2 ans, entraîne la prise de parole de très nombreuses personnes qui l'avaient connue. Et c'est ce que vous racontez, entre autres, dans ce nouveau récit bouleversant intitulé « La vie des morts ». C'est là encore une célébration du pouvoir des mots. Michel Rostin, bonsoir.
Bonsoir.
Ah, Michel Rostin. Alors là, il faut expliquer à ceux qui nous regardent ce soir. Vous avez publié, Michel Rostin, il y a 10 ans, un livre absolument remarquable dont je me souviens encore, comme si je l'avais lu hier soir. Il était consacré, ce livre, à la mort de votre fils, à l'âge de 21 ans. Aujourd'hui, vous publiez un roman intitulé « Le Vieux ». L'histoire d'un vieux metteur en scène d'opéra confronté à la mort volontaire d'un jeune comédien, un suicide qui pose la question tout simplement du droit de mourir dans la dignité et où on croise une sorcière bretonne, la Kébène. Comment vivre avec nos morts? C'est la question que vous posez tous les trois, me semble-t-il, dans vos livres. Vous réussissez ce tour de force à en parler en étant parfois mélancolique, mais jamais triste. Et alors ça, j'aimerais que vous nous expliquiez. On va, pour en parler, peut-être commencer par ouvrir le livre qui porte ce titre, « Vivre avec les morts », Delphine Horvilleur. J'en profite pour dire que c'est un livre qui s'adresse à tous, hein, bien au-delà des communautés religieuses, y compris aux esprits forts, matérialistes et non-croyants. « Vivre avec nos morts », vous racontez des histoires de deuil, Delphine Horvilleur. Alors, de personnalité, mais aussi d'anonymes. Ça se déroule lors d'obsèques nationales ou alors dans un cimetière presque vide. On y croise Elsa Kayat, la psy de Charlie Hebdo, assassinée il y a 6 ans, Simone Veil ou Marceline Loridan-Evans, les filles de Birkenau. On y croise également un petit garçon qui se demande où son frère est parti, sans oublier quelques-unes des grandes figures mythologiques et bibliques, et puis des écrivains. C'est aussi un livre sur le pouvoir des contes, sur la littérature donc, sur le pouvoir de la parole, des mots, quand on sait les choisir. Vous notez d'emblée qu'il y a un rapport, un lien très fort entre l'activité de rabbin et l'art de conter. Quel est-il, ce lien entre, j'allais dire, le métier de rabbin et la vocation de conteuse?
Effectivement, souvent les gens me demandent de définir mon métier, qu'est-ce que c'est qu'un rabbin? On ne sait pas ce que fait un rabbin. Souvent les gens pensent que c'est comme un prêtre dans la tradition juive. Mais ce n'est pas exactement ça. Un rabbin, c'est un enseignant, mais c'est effectivement quelqu'un qui doit être capable d'utiliser les mots pour raconter les histoires. Et j'ai souvent l'impression qu'effectivement, le métier qui s'approche le plus du mien, c'est le métier de conteur ou de conteuse, que je dois me tenir à des moments très particuliers de la vie des gens, où tout à coup, les mots est souvent ce qui les garde en vie ou ce qui les lie ou qui les relie aux autres et au temps de l'histoire, en fait. Qu'est-ce que c'est que le religieux ? C'est étymologiquement ce qui relie, dans tous les sens du terme d'ailleurs, ce qui relie avec un E et ce qui relie au sens de relire, opérer une relecture. La place du récit, c'est ce qui garde les portes ouvertes entre des univers, entre des mondes, entre ceux qui ne sont plus et ceux qui sont là, entre ce qu'on est et ce qu'on sera plus soi-même et ce qu'on pourrait devenir. Voilà, ma fonction souvent, c'est de me tenir à la porte et de m'assurer qu'elle reste un peu ouverte.
On va revenir précisément sur cette fonction, sur ce lien, ce lien dans tous les sens du terme, que les mots peuvent employer. Mais Jean-Marie Laclaftine, vous, dans un de vos livres, vous racontez que vous avez été élevé par des parents sauvagement catholiques. Vous vous en êtes vous-même rapidement éloigné. Et qu'est-ce que c'est la religion pour vous ?
Je suis assez frappé par la définition que Delphine Horviller vient de donner de son rôle. Parce que dans le fond, quand elle parle du rabbin, on ne dit pas une rabbine. Enfin, si vous le dites d'ailleurs à un moment. Mais, parce que tout ce qu'elle a dit, je croyais entendre la définition de l'écrivain, dans le fond. L'écrivain, c'est ça, c'est celui qui a la capacité d'être au nœud des relations entre les gens, entre les vivants et les morts, entre les vivants, tout simplement, entre les cultures, entre le passé et le présent, et à mettre ça en forme pour partager avec les autres. Dans le fond, je n'avais jamais pensé que j'étais moi-même un rabbin, mais peut-être que finalement... En tout cas, vous êtes un écrivain.
Michel Rostin, vous, dans votre livre, vous mettez en scène un vieux metteur en scène qui a à peu près votre âge, à peu près votre parcours, et qui pense que la mort, c'est fini, et basta. Le matérialisme le plus pur. C'est un petit peu ce que vous pensez, j'imagine.
Profondément.
La religion telle que Delphine Horviller l'a décrite, c'est-à-dire reliée. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle davantage ?
Je suis profondément athée. C'est une croyance. Exactement comme d'autres croient en Dieu, moi je n'y crois pas. Je suis matérialiste, profondément matérialiste, sauf sur scène. Sur scène, alors là, je crois à tout. Je crois à tout. Et je suis prêt à croire à tout, pourvu que j'en sois capable. Que les acteurs, les chanteurs, les musiciens qui sont avec moi soient capables de me faire sentir, partager leurs croyances.
Donc la puissance d'incarnation des mots sur scène ?
Des corps.
Des corps.
Et des âmes.
Mais c'est de la superstition, ça, dites-moi.
Non, pas du tout. Je crois que c'est quelque chose de très, très matériel, de très fort. Je suis dingue, là. Sur scène, je suis fou. Les ondes, c'est fort. Je suis persuadé qu'un acteur, un chanteur, un musicien irradie, envoie des ondes, des paquets d'ondes. Et que un bon... Alors, probablement, pour un écrivain, c'est pareil. Les ondes passent, voilà. Les ondes passent. Alors, ça relie, ça. Ça relie sérieusement.
La puissance du théâtre, pour moi, c'est que j'en parlais récemment avec un metteur en scène qui me disait que pour lui, le théâtre, c'est la conscience que des gens qui vont mourir parlent à des gens qui vont mourir dans un moment très particulier. Mais moi, je ressens ça aussi quand j'officie ou quand j'accompagne des gens au moment où justement surgit cette parole, au moment d'un deuil. Eh bien, il y a une conscience très particulière que ceux qui vont mourir s'adressent à ceux qui vont mourir. Mais il y a un temps sacré qui le permet, la scène le permet peut-être, mais les cérémonies aussi le permettent tout à coup. On est tous conscients de notre mortalité, et en même temps, il y a du plus grand que nous, qu'on appellerait dans un langage religieux du transcendant, qui est là, au rendez-vous.
Alors, il y a la partie religieuse, et ceux qui croient, on n'aura pas de mal à les convaincre. Mais je voudrais qu'on s'adresse aussi, si vous le voulez bien, à tous ceux qui sont plus sceptiques. Et vous le faites aussi à travers les mots. L'étymologie, ou l'origine des mots. Par exemple, tiens, le cimetière. Alors, le cimetière, dans la langue française, c'est la maison des morts. En hébreu, écrivez-vous, c'est exactement l'inverse. C'est la maison des vivants.
Oui, c'est comme ça qu'on appelle un cimetière. Alors, on peut s'imaginer que c'est une façon de ne pas oser en parler, de détourner le sujet. Ça s'appelle Bet Ha'im, en hébreu, la maison de la vie ou la maison des vivants. Et les sages racontent que c'est justement au cimetière qu'il faut être capable de parler de la vie, qu'il faut être capable de l'évoquer et en fait de ne pas laisser la mort avoir le dernier mot. Le propre de la mort, c'est que le langage échappe à son monde, en fait. On ne sait pas parler de la mort, on ne peut pas parler de la mort. C'est un monde où il n'y a pas de place pour les mots. Mais quand elle surgit, et quand on honore les disparus au cimetière, il y a la possibilité, avec nos mots, de dire à la mort, tu n'auras pas le dernier mot. En fait, de faire gagner encore un peu la vie, même quand la mort est là et évidente.
Est-ce que ce n'est pas cela, au fond, ce que vous cherchez à faire, Delphine Horvilleur, c'est-à-dire trouver le moyen de célébrer la vie au moment où la tristesse, la douleur, le chagrin s'emparent de chacun, sont, et prêts d'ailleurs à le terrasser. Et vous vous dites, mais finalement, on pourrait raconter une histoire qui est une histoire de vie et non pas une histoire de mort.
Oui, vous savez, dans ma tradition, il y a une coutume, à chaque fois qu'on lève un verre, on dit les chaim à la vie. On célèbre la vie et on l'honore, et c'est une façon, effectivement, de la contrer de façon assez puissante, même quand elle s'obstine à ressurgir dans notre existence. Et je crois qu'on a la capacité de le faire de bien des manières, en racontant des histoires, même en racontant des blagues, parfois, de dire à la mort.
Sauf que vous dites, il faut trouver le mot juste.
C'est l'exercice le plus difficile, de s'assurer qu'on est dans le bon registre. Parce que les vies, elles peuvent se raconter de plein de manières. Moi, parfois, j'accompagne des gens et se pose à moi la question, est-ce que je dois raconter leur vie comme une tragédie grecque ou est-ce que je dois raconter leur vie par la fin ou par le début, comme une comédie romantique, comme un western ou comme un thriller. Et chacune de nos vies peut être racontée et mise en scène de bien des manières, mais il faut trouver le registre le plus juste pour vraiment honorer la personne, pouvoir la raconter. Alors vous savez, ce qui est difficile dans un enterrement, c'est que les gens ont la fâcheuse tendance à tisser les louanges des disparus comme s'ils avaient été l'incarnation d'une perfection. Et je ne trouve pas qu'on honore les morts en racontant leur perfection. Moi, je trouve que souvent, on honore mieux les morts en racontant, pas qu'ils ont été des super-héros, mais qu'ils ont été des super-humains avec toutes leurs faiblesses et leurs failles et leurs cassures. Et leur ratage aussi. Et donc, il faut trouver les mots justes pour raconter ça au mieux.
Est-ce que notre besoin de consolation n'est pas en réalité un besoin de récit, à vous entendre ?
Moi, j'en ai la conviction, mais je pense que quiconque a déjà endormi un enfant le soir, la nuit tombée, le sait. En fait, on ne sait pas consoler autrement. Quand la nuit tombe dans nos vies ou dehors, dans le ciel, ou dans nos existences, on ne sait pas consoler autrement qu'en racontant des histoires. On a tous besoin d'histoires pour rester en vie et pour vivre avec nos morts. En fait, pour moi, le titre de mon livre, ce n'est pas juste vivre avec ceux qui sont partis, c'est vivre avec nos morts à nous. En fait, on fait tous l'expérience de la mort dans nos vies, les ruptures, les changements de vie, d'opinion, d'idées, la fin d'un espoir, la fin d'un amour. Tout ça, c'est des morts avec lesquels il faut apprendre à vivre.
Mais je reviens sur les histoires, sauf que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Qu'est-ce que vous racontez à un petit garçon qui, lui, ne se satisfait pas de l'histoire, de la fiction que ses parents lui ont dit, quand ils lui ont dit, tu sais, ton frère est parti. Il est parti où, d'ailleurs ? Au ciel ? Ah bon ? C'est où ? Sous terre ? Comment ça ? Où est-il ? Vous demande-t-il, ce garçon ? Que dire ? Quel mot trouver là où les belles histoires, les jolies fictions sont impuissantes ?
Bah déjà, il faut raconter à un enfant comme celui-là à quel point les adultes sont maladroits avec les mots et à quel point on ne sait pas parler de la mort. Ça nous est tous arrivé d'entendre dire, quand les gens parlent d'un disparu, il est sous terre, il est au ciel, il repose en paix, il est devenu une étoile. Enfin, on utilise des images ou des métaphores qui ne sont pas compatibles les unes avec les autres. Mais les adultes font avec ces métaphores contradictoires, alors que les enfants, comme les poètes ou comme ceux qui écoutent les mots, savent qu'il y a une incohérence de langage. Et parfois, simplement la pointer, expliquer à un enfant qu'on ne saura pas parler de la mort, mais qu'on sera à ses côtés pour accompagner celui qui s'en va et qu'on sera à ses côtés dans la façon dont il apprendra à grandir et à vivre la vie des morts, telle que vous l'avez racontée, c'est déjà extrêmement puissant. On ne peut parfois pas faire beaucoup plus que ça, pas faire des promesses qu'on ne pourra pas tenir, mais simplement raconter qu'on sera là. C'est déjà quelque chose.
Michel Rostin, dans votre roman, vous insistez beaucoup sur la vacuité des mots. Vous, l'écrivain, l'homme de théâtre, sur les maladresses également. que chacun commet alors qu'il croit consoler, qu'il croit réparer, qu'il croit aider. Est-ce que ça veut dire que vous ne croyez pas autant que Delphine Horviller à la puissance du langage? Ou est-ce qu'il faut apprendre encore autre chose?
Je crois tout à fait à la puissance du langage, mais pour moi, c'est pas très bien ce que je vais dire, mais au début était l'action, il y a la présence, il y a la présence des corps, il y a la présence des... Et puis il y a les mots qui viennent après, voilà. Et s'il n'y a pas les corps, les mots, c'est rien. C'est du creux, c'est du vide pour moi. Je m'excuse, c'est brutal de dire comme ça, parce que tout le monde ne le croit pas. Mais vraiment, les corps, ce qui porte les mots, ce qui génère les mots, a une force énorme pour moi.
Moi, je suis embêtée parce que je suis d'accord avec vous.
Pourquoi est-ce que vous êtes embêtée?
Parce que
j'étais supposée que j'allais être choquée par ces propos. Je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus vrai. Moi, je l'ai ressenti cette année, peut-être comme vous, avec ce qu'on vient de traverser, au moment où il a fallu accompagner tant de gens sans nos corps cette année, au cœur de cette pandémie. Il n'a pas été possible d'être présent comme on devait l'être, comme on aurait voulu l'être. Moi, j'ai vu tellement d'endeuillés cette année que personne n'a pris dans les bras, qui sont repartis tout seuls du cimetière, que personne n'a embrassé, à qui personne n'a serré la main. Et ces défaillances des corps étaient en réalité beaucoup plus critiques que la faille des mots.
Vous le racontez, ça, dans une page très belle, Jean-Marie Laclaftine, en parlant d'un de vos amis que vous retrouvez après des années de silence et qui meurt seul au moment où un virus empêche tous ses amis de le rejoindre.
Moi, je pense que les corps, sans les mots, ils ne sont qu'un tas de matière inerte, en réalité. L'amour, c'est avant tout des histoires d'amour. La vie, c'est l'histoire que nous tissons avec ce que nous vivons. Et sans les mots, nous ne sommes pas grand-chose. Et encore une fois, je ne suis pas très religieux, mais quand même, quand on dit « au commencement était le Verbe », je pense très profondément à ça, que c'est vrai. Et pour revenir sur mon ami Michel, qui en effet a réapparu dans ma vie après avoir disparu pendant des années, quelqu'un avec qui j'ai eu des relations très très fortes, et il est revenu vers moi alors qu'il était malade, qu'il sentait qu'il allait mourir. Et en effet, nos retrouvailles ont été très fortes et merveilleuses. Et le fait qu'il soit parti seul, sans le secours de nos présences, enfin de la présence de ses amis proches, c'est quelque chose d'absolument atroce. Enfin, c'est vrai que cette pandémie a créé des situations abominables. Et en effet, il est parti seul, on n'a pas pu l'accompagner, comme des milliers de gens.
Delphine Horviller, quels sont les risques d'empêchement de rituels aujourd'hui pour la santé mentale, à la fois de ceux qui restent, peut-être aussi pour le dernier salut aux copains?
Alors, il se trouve que depuis 2 semaines maintenant, je pense tout le temps à ça, parce qu'on est exactement 1 an après ce moment où on n'a pas pu accompagner les gens. On marque la date anniversaire de ce début du premier confinement où vraiment les cérémonies n'ont pas eu lieu. Il y a eu un moment de cafouillage, on ne savait pas si on pouvait se rendre au cimetière ou pas, si les cérémonies pouvaient avoir lieu. Et moi, depuis environ 2 semaines, j'officie dans les cimetières pour des cérémonies d'années de deuil où je suis confrontée à des gens qui pleurent comme si la personne était morte avant-hier ou la semaine dernière. C'est-à-dire comme si le deuil n'avait pas du tout commencé, comme si quelque chose avait été gelé parce que les gestes n'étaient pas là, parce que les mots n'étaient pas au rendez-vous. Il y a eu quelque chose comme une latence qui a rendu le début du retour à la vie, de la réinscription dans la vie, impossible. Et puis, moi, j'ai la conviction que ne pas pouvoir accompagner les morts, ça crée des fantômes. Des fantômes pas au sens, vous savez, où tout à coup les draps se mettent à bouger, où il y a du bruit sous le lit ou derrière les armoires, mais les fantômes au sens vraiment de revenants ou de résidus de vie qui ne passe pas et qui ne cesse de revenir et de nous hanter.
Mais il faut peut-être s'arrêter sur ce mot, et vous le faites très bien dans ce livre. Nous, on dit fantôme, vous, vous dites revenant. Et dès qu'on substitue un mot à l'autre, regardez bien ce qui se joue dans l'inconscient collectif, mais aussi dans le langage. Le revenant, il revient par définition. Le fantôme, bon, on a tous joué au fantôme, d'ailleurs, hein, en se mettant sous un drap blanc. Quelle est l'étymologie de ce mot, puisque vous l'avez trouvé dans la tradition juive?
Oui, dans la tradition juive, un fantôme, ça porte un nom bizarre. Ça s'appelle Ruach Rephaim. Ça veut dire littéralement un esprit décousu. Et en fait, ça vient d'un rite que vous connaissez peut-être, qui est que quand les gens meurent et sont enterrés, dans la tradition juive, ils sont enterrés dans un linceul. Et avant de les mettre en terre, on coud le linceul. Et un fantôme, c'est comme un esprit dont on aurait mal cousu le linceul. Il est décousu parce qu'en fait, on n'a pas établi une clôture, une couture, et donc parce qu'on n'a pas reprisé son linceul, en fait, il ne cesse de revenir. En fait, il est en quête de couture.
Que répondez-vous à celles et à ceux qui souhaitent que ces revenants reviennent, qui expriment le besoin de trouver ou de penser qu'il y a encore une communication avec leur mort, qui ne voudrait pas coudre le linceul?
Mais je crois que la couture n'empêche pas la discussion et le dialogue. Je crois qu'on continue toujours à parler avec nos morts, et parfois on continue à parler avec eux à travers les vivants. Et je crois que vos livres le racontent bien, la façon dont on est capable de poursuivre une conversation à travers les vivants. Moi, je dois raconter une toute petite anecdote. Suite à la publication du livre, j'ai reçu beaucoup de courriers, mais notamment parce que je parle de mon grand-père dans ce livre, j'ai reçu des courriers de gens qui ont connu mon grand-père, parfois il y a 60 et 70 ans, et qui me racontent aujourd'hui comment une rencontre avec lui a changé leur vie. Ils ne lui ont jamais dit, ils ne l'ont pas dit à ses enfants, et ils viennent le raconter à sa petite fille, 60 ans plus tard, et près de 20 ans après la disparition de mon grand-père. Et je ne cesse de me dire qu'il y a là quelque chose d'extraordinaire, cette capacité qu'on a à poursuivre la vie des morts, de fait, avec une conversation entre les vivants.
C'est très exactement ce qui s'est passé pour vous, hein, Jean-Marie Laclaftine, on en parlera en détail, mais en réalité, cette conversation, 50 ans après les faits, 50 ans après la disparition de votre sœur, et peut-être parce que vous avez trouvé les mots.
Oui, mais moi je ne crois pas que les morts reviennent, parce qu'ils ne partent pas en réalité. Ils sont là. En exergue de mon livre, j'ai mis une citation de Tennessee Williams, d'un Ménagerie de verre, où il dit « Vous allez m'amener sur la colline des cyprès, nous irons écouter les morts. Les morts bavardent entre eux comme des oiseaux. Ils n'ont qu'un seul mot, vivez, vivez, vivez. » Ils nous disent ce mot, vivez, ils sont là, les morts, ils sont avec nous. Ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas mystique de dire ça. Ils sont vraiment là. Ils nous disent, je suis là, nous n'avons pas fini. Nous n'avons jamais fini.
Ce que j'ai trouvé paradoxal, puisque vous évoquez la figure de votre grand-père, mais aussi de votre grand-mère, c'est le silence. C'est-à-dire que vous faites l'éloge de la parole. Mais vous êtes l'enfant du silence.
Oui, je suis l'enfant de mots qui n'ont pas été dits. De mots qu'on n'a pas pu dire ou qu'on n'a pas su entendre. Voilà, je suis la petite fille de grands-parents qui, dans leur traumatisme, n'ont pas pu parler. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas voulu parler, c'est qu'ils n'ont pas pu parler et on n'a pas su les écouter. Et je crois que ça m'a inscrite très jeune dans un questionnement sur la façon dont on remplit les silences, parce qu'on n'a pas le choix, de nos interprétations.
Et c'est intéressant parce que je note que vous dites un traumatisme et vous ne dites pas lequel. Comme si là aussi le silence était important.
Mmh. Oui, je le dis beaucoup dans le livre, c'est le traumatisme de la Shoah. Mais c'est intéressant que vous me fassiez remarquer que j'ai du mal à en parler, parce qu'un autre élément de ce qui s'est passé pour moi après la sortie du livre, c'est que j'ai placé dans ce livre beaucoup de mes secrets, beaucoup de mes silences. Et le propre d'un livre qui sort et qui devient public, c'est que les gens vous demandent d'en parler, et il y a toujours une frontière très fine entre la volonté de partager avec le lecteur ce que vous avez écrit et la conscience, la peur d'une forme de profanation quand on en parle trop. C'est-à-dire que j'essaie dans mes mots de respecter encore un peu le secret, leur secret, la puissance du silence auquel je dois tant, parce que je sais que je suis devenue ce que je suis devenue, par leur silence, y compris, je dirais, le rabbin, la lectrice et l'exégète que je suis devenue, doit tout à ce silence, parce que très jeune, j'ai su que le silence attendait l'interprétation. Et c'est exactement ce que les textes sacrés, quand je les lis, me demandent eux aussi. Ils ne disent rien, ils sont silencieux. Ils attendent que le lecteur les fasse parler dans sa langue.
Est-ce que ce silence dont vous parlez est la raison, l'une des raisons qui vous a rapproché de deux femmes exceptionnelles qui vous ont accompagné dans votre vie et que vous avez accompagné le jour de leur enterrement, Simone Veil et Marceline Laurie Dunn-Evans, les filles de Birkenau, qui étaient si proches et si dissemblables. Vous écrivez de très belles pages sur l'une et l'autre, la femme politique et la cinéaste, celle Simone Veil au chignon, qui dit beaucoup de sa personnalité, et l'autre, Marceline, au rire et à la chevelure en pétard. Pas que la chevelure d'ailleurs.
Effectivement, c'est comme deux sœurs jumelles et que tout oppose. Leur chevelure et leur coiffure racontent ça très bien. Il y a d'un côté le sens du devoir et de l'engagement. Moi, je suis née en novembre 1974, exactement au moment où Simone Veil prononçait son discours à l'Assemblée nationale. Et j'ai eu l'impression que c'était comme une fée qui s'était un peu penchée sur les filles de ma génération en leur promettant la liberté. Mais elle incarnait un sens du devoir. Alors que Marceline, c'était l'inverse. Elle incarnait la liberté. Elle disait, pardon du terme, merde à tout, y compris à la mort. Elle était indomptable et sauvage. Et paradoxalement, c'est sa liberté qui nous enseignait un certain sens du devoir. Et je trouve qu'à elles deux, elles ont modelé voilà, quelque chose pour ma génération, pour beaucoup de gens de notre génération. Et pour beaucoup de femmes, je trouve que leur image côte à côte raconte quelque chose de la condition féminine. Est-ce que j'ai l'impression que dans ma tête et dans la tête de beaucoup de femmes, il y a ces deux voix, celle de Simone et de Marceline, qui dialoguent. Est-ce qu'on a envie de s'inscrire dans le devoir et le dévouement et la responsabilité politique? Ou est-ce qu'on a envie de finalement ouvrir la porte à la liberté, à la passion, au désir, ce que Marceline raconte? Voilà, leur duo, en tout cas, a été une très grande influence pour moi, plus même que je l'ai imaginé pendant
longtemps. Mais permettez-moi de revenir au silence et aux enfants du silence. Simone Veil, déportée à Auschwitz à l'âge de 16 ans. Marceline Laurie Dunn-Evans, déportée à Auschwitz, puis à Birkenau, à l'âge de 15 ans. Toutes les deux mettront des années à raconter. Toutes les deux mettront des années avant de trouver le mot juste, celui qui permet de transmettre.
Je crois surtout que toutes les deux vivront des années dans une société qui ne peut pas entendre ces mots aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas juste leur incapacité à les prononcer, ces mots. Je crois que pendant longtemps, il y a eu une latence et la société ne voulait pas ou ne pouvait pas entendre ces récits. Et tout à coup, quelque chose bascule et elles vont incarner la prise de parole, le récit et le témoignage. Mais, et c'est extrêmement important, me semble-t-il, de l'entendre aujourd'hui, elles incarnent la possibilité de témoigner sans enfermement victimaire, sans compétition victimaire. Elles viennent pas nous dire « Attention, voilà ce qui m'est arrivé, respectez ce qui m'est arrivé, souvenez-vous de ce qui m'est arrivé. » Non, elles disent pas ça. Elles disent « Voilà ce qui m'est arrivé et voilà pourquoi ça m'engage politiquement, tout simplement, dans mon cinéma, dans mon engagement politique. Voilà pourquoi ce qui m'est arrivé va me servir de pilier pour construire quelque chose dans le monde, raconter et agir. »
Marceline Laurie Dunn-Evans ne croyait pas beaucoup en Dieu. Tout de même.
En tout cas, lui,
elle croyait beaucoup en son absence.
Elle était très très dure. Oui, elle était très très dure avec lui. Et voilà, elle était capable d'être féroce contre.
Elle l'a écrit dans ses livres. Elle l'a dit beaucoup en entretien. Elle riait d'une blague juive que vous rapportez dans ce livre, comme si vous, la rabbin, deviez en rire aussi, comme si ce rire-là, vous deviez le partager avec Marceline. Vous pouvez nous la rappeler, cette blague qui faisait tant rire, Marceline Loridan ?
Il y en avait beaucoup, mais il y a une que je pense que vous faites allusion à celle-ci. On se racontait souvent cette blague de deux juifs survivants des camps qui se font des blagues noires sur Auschwitz, et Dieu arrive et leur dit « Mais enfin, comment est-ce que vous osez rire de ça ?» Et les deux juifs se tournent vers Dieu et lui disent « Toi, tu peux pas comprendre, t'étais pas là. » Et ça, effectivement, c'est pas juste de la pensée et de l'humour juif, c'est de la théologie, en fait. C'est la vraie question sur la non-intervention de Dieu dans l'histoire. Dieu s'est illustré dans l'histoire, et je dirais particulièrement dans l'histoire juive, par une très puissante non-intervention.
Cette non-intervention a fait beaucoup douter Marceline, elle l'a vécu. Est-ce qu'elle vous fait douter, vous, parfois ?
Oui, moi je suis pleine de doutes. Pour moi, ma religiosité n'est pas un indubitable. En fait, je crois au récit, je crois au lien entre les générations, je crois en l'humanité telle qu'elle et tant d'autres ont pu l'incarner. Et ça n'empêche pas, y compris du sein de ma tradition, de faire de la place au doute. Voilà, j'aurais du mal à vous dire auquel Dieu je crois. Je peux vous dire auquel Dieu je ne crois pas. On peut en parler longuement, c'est peut-être le sujet d'une autre émission, mais voilà, je peux définir à quel Dieu je ne crois pas. Et bien souvent, effectivement, on présuppose par mon engagement religieux que je crois en quelque chose qui n'est pas ma croyance.
En quoi croyez-vous ?
Eh bien, je crois, par exemple, en la capacité des histoires à changer le monde. Je crois au sacré du récit. Je crois en la possibilité, de louer un transcendant, quelle que soit la façon dont on l'appelle, pour notre possibilité à rencontrer certains êtres dans nos vies qui croisent notre route.
Vous mettez la littérature avant celui que vous appelez dans ce livre l'éternel.
Vous savez, dans ma tradition, Dieu n'a pas de nom. On ne sait pas comment prononcer son nom. C'est ce qu'on appelle le nom ineffable, le tétragramme. En fait, on se fiche de savoir comment ce nom se prononce. On ne sait même pas si c'est un nom ou un verbe ou une action. Le fond du problème, ce n'est pas Dieu. C'est comment vous vous comportez, comment vous agissez. C'est une façon d'être, une façon de faire. Et ce n'est pas une façon de croire. Il y a plein de blagues juives sur cette question, je peux vous en raconter encore une, c'est l'histoire de rabbins qui pendant toute une nuit débattent « est-ce que Dieu existe ? Est-ce que Dieu existe ?» Et ils arrivent à la conclusion que Dieu n'existe pas. Et le lendemain, l'un d'entre eux croise les deux autres en chemin vers la synagogue, il leur dit « mais pourquoi vous allez à la synagogue ? On a défini que Dieu n'existait pas. » Et les deux autres lui répondent « qu'est-ce que ça a à voir ? Qu'est-ce que ça a à voir ? Il y a une façon d'être au monde qui peut ne rien avoir à voir avec l'existence ou pas du divin. C'est toujours beaucoup plus compliqué que ça.
Dans ce livre, pourtant, il me semble, page 100 notamment, que vous doutez de l'athéisme de Marceline Loridan Evans, qu'elle avait pourtant, dans ses nombreux livres, à chaque fois clairement établi. Est-ce que vous n'allez pas un peu trop loin ? Est-ce que votre passion pour cette femme, mais aussi peut-être votre religion, ne vous pousse pas parfois à réécrire un tout petit peu cette histoire ?
D'abord, je crois qu'on réécrit tous en permanence l'histoire, mais pour ce qui est de Marceline, je crois que Marceline s'engueulait trop avec Dieu pour ne pas y croire. Marceline, elle est morte un jour très particulier, et ça, c'était du grand Marceline. Elle nous a quittés le soir de Yom Kippour, qui est le soir le plus sacré pour les Juifs, un moment où, selon la tradition, on est tous convoqués devant un tribunal, on va devoir rendre des comptes devant l'Éternel qui juge nos actions. Et bien, ce soir-là, Marceline, elle a dit à Dieu, « Tu sais quoi, ta convocation, je m'en fous, je ne viendrai pas. » En fait, vous vous rendez compte, la puissance de ce geste athée, bien entendu, que de dire à Dieu, « Je ne viendrai pas à cette convocation solennelle, je prends la tangente. » Voilà, ça c'était du grand Marceline. Alors, on peut appeler ça comme on veut, bien sûr, on peut appeler ça être agnostique, être athée, être en colère contre Dieu, on peut appeler ça une forme de religiosité. Voilà, et en tout cas, moi je veux respecter cette possibilité jusqu'au bout, et j'espère que je ne trahis pas Marceline en lui prêtant cette religiosité-là, même en colère.
Elle est souvent venue, vous le savez sans doute, sur ce plateau, elle a beaucoup parlé, et je ne résiste pas au plaisir, à l'envie de vous offrir sa réponse à la question. Est-ce que vous croyez, et si oui, en quoi croyez-vous, Marceline ? Est-ce que vous croyez, et en quoi croyez-vous ?
Moi, je pourrais vous répondre comme Hubert Reeves. Je pourrais vous dire, je crois en quelque chose que je ne connais pas. C'est tout ce que je peux vous dire. Et de toute façon, moi, je suis profondément française. Je suis profondément athée. Et moi, je crois qu'il n'y a rien après. Mais peut-être je me trompe. Peut-être qu'il y a quelque chose que je ne connais pas. C'est tout ce que je peux vous dire.
Peut-être. C'est génial. Peut-être.
Accompagner les endeuillés, vous a-t-il immunisé, vous, personnellement, contre la peur de la mort?
J'adorerais vous répondre oui. Mais non. En fait, non, je n'ai pas l'impression que d'accompagner la mort, ça m'ait fait avoir moins peur d'elle, moins l'appréhender. J'ai juste l'impression que je sais un peu mieux quoi faire quand elle surgit. Simplement, comment trouver les mots pour la mettre un peu à distance quand elle est là. Mais je ne crois pas qu'on puisse apprendre à mourir, contrairement à ce que certains suggèrent en philosophie. Je ne crois pas qu'on puisse apprendre à ne plus avoir peur de la mort. J'envie ceux qui n'ont pas cette peur. Mais moi, j'apprends plutôt à vivre avec cette peur et à continuer malgré tout à choisir la vie quand c'est possible.
Choisir la vie.
C'est une phrase de la Bible, ça. C'est une phrase du Deutéronome. Il y a une phrase étrange qui, a priori, veut rien dire, mais qui est très puissante dans la Bible, qui dit « Dieu dit, j'ai placé devant toi la vie et la mort, et tu choisiras la vie. » Et quand on entend cette phrase, on se dit a priori, bah oui, pourquoi je choisirais la mort? Évidemment que je vais choisir la vie. Mais en fait, c'est très fin et profond. On est tous confrontés à ce choix. Moi, je vois souvent dans la vie des gens que je rencontre qu'ils sont à des moments carrefour et charnières de leur vie où ils peuvent faire le choix de la vie ou pas. Et parfois, c'est coûteux de faire le choix de la vie. Parfois, c'est compliqué. Et pourtant, c'est ça l'injonction pour moi.
Dans ce livre, qui est aussi un très bel éloge, on l'a dit, de la littérature, mais aussi des langues, vous opposez parfois ce que l'on dit en français, ce que l'on peut dire en hébreu. Et je me souviens d'une conversation avec Elie Wiesel, sur ce plateau, qui nous disait, il y a quelques années, en français, on dit « ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une ». Mais en hébreu, on dit autre chose. « La vie ne commence que quand tu comprends que tu en as plusieurs ».
Oui, en fait, la vie en hébreu, chaim, c'est un mot qui n'existe pas au singulier. Bizarre comme forme grammaticale. On ne peut pas avoir une vie. On en a toujours plusieurs qui sont tissées les unes aux autres, qui se mélangent à d'autres vies. C'est un grand problème théologique. J'ai une histoire juive qui me vient à l'esprit, mais je vais arrêter parce qu'après on va penser que je ne fais que raconter des histoires drôles dans une émission sur la mort. Mais c'est une question avec laquelle les théologiens se débattent. Quand commence la vie? Vous savez que toutes les religions ne sont pas du tout d'accord sur cette question. Mais effectivement, je crois que moi j'ai rencontré dans ma vie beaucoup de gens dont la force a été d'avoir plusieurs vies. De ne jamais considérer qu'ils étaient qu'ils n'en avaient qu'une. En fait, il existe une possibilité, en bien des moments de nos existences, de recommencement.
Et donc, plein si de je vous suis bien, à nos morts, à nos vies, c'est ça?
Oui, en fait, à nos vies implique, la vie implique d'accepter que la mort est en dialogue avec elle en permanence. Depuis qu'on a commencé à parler, je ne sais pas depuis combien de temps on est sur ce plateau, si tout se passe bien dans nos corps, il y a plein de cellules qui sont mortes ou qui ont engagé un processus de destruction, parce que c'est la condition de la vie. Nous ne sommes en vie biologiquement que parce que tout au long de la vie, la mort fait son travail. Et en fait...
Vous allez même beaucoup plus loin dans votre livre. Vous rappelez que si une cellule refuse de mourir, alors...
C'est une tumeur.
C'est une tumeur.
Avec ce qu'on entend dans le mot « tumeur », en fait.
– Deux mots, bien sûr. –
Oui, bien sûr. Ah oui. En fait, l'excès de vie, la mort inhibée, nous condamne. En fait, on est incroyablement dépendant d'un processus de mort dans nos existences. Et la vraie question qui se pose à nous, encore une fois, c'est comment on va faire pour vivre avec nos morts, mais vraiment les nôtres, celles qui, de façon continue, nous habitent et sont la condition de notre existence.
« Vivre avec nos morts » de Delphine Horviller, c'est aux éditions Grasset. La vie, justement, et peut-être même plusieurs vies avec des changements de vie, je vous emmène au royaume des livres, c'est-à-dire en librairie. Voici une toute nouvelle librairie qui vient d'être créée à Paris. C'est dans le 18e arrondissement, il y a tout juste 7 mois, c'est-à-dire entre deux confinements. C'est à la fois, avouez-le, courageux et sublime, et ça valait bien une petite visite avec Inès de la Motte Saint-Pierre. Le nom de cette librairie, fondée par Lucie Epple et Thibaut Willems, Le Pied à Terre.
Le Pied à Terre, c'est une histoire d'amitié, c'est une histoire de passion partagée.
Ouais, on a monté la librairie parce que on avait envie d'avoir un lieu à nous, comme une chambre à soi pour Virginia Woolf. On voulait se sentir chez nous. On a les pieds sur terre et nous, on pense qu'on ne peut jamais s'envoler mieux que quand on a un bon point d'appui. Il faut absolument lire Baldwin et Harlem Quartet. On dit que c'est son roman le plus ample. Et donc, il aborde ici, Baldwin, tous les thèmes qui lui sont chers. La fraternité, la sororité, la violence sexuelle. Donc, c'est à la fois très sombre et en même temps, à chaque page, il y a une quête de lumière et une quête de rédemption qui rend ses livres absolument solaires.
Le livre choc pour moi, ça serait « Devenir chienne » de Itziar Ziga. C'est un livre en fait qui invite à démonter les codes de la féminité. Ça cogne, ça craque, ça gueule, ça rit aussi. Et voilà, c'est aussi un livre qui invite à vivre le féminisme depuis un endroit de plaisir, de fête. C'est une lecture qui fait du bien, qui libère.
Mon ovni, c'est « Viendra le temps du feu » de Wendy Delorme. Les frontières sont fermées, on distribue des bons points à la fécondité, on contrôle les déplacements, il y a des couvre-feux. Et donc c'est un roman qui est à la fois assez anxiogène, parce qu'évidemment, il y a des échos avec notre société actuelle, donc il est très contemporain, et en même temps extrêmement lumineux, parce qu'il redonne espoir dans l'action collective.
Le classique à découvrir, ce serait « Planète sans visa » de Jean Malaquais. C'est un livre qui raconte Marseille entre 1940 et 1942, donc pendant la période de la France libre. Jean Malaquais, il a un talent d'écriture dingue et en fait, il arrive à changer de registre de langue selon ses personnages. C'est un livre qui fait sentir toute la complexité, la dureté de cette époque.
Mon premier roman, ce serait Un bref instant de splendeur d'Ocean Vuong. Il y raconte son héritage familial. Il vit aux États-Unis avec sa mère et sa grand-mère. Et évidemment, il y a les fantômes de la guerre du Vietnam. Et puis en même temps, on suit ce jeune adolescent qui va s'éveiller à la sensualité, qui va s'éveiller à l'amour et à l'espoir, du coup. Il faut lire ce livre parce qu'il est absolument magnétique.
Voilà, retour en plateau avec Delphine Horviller, Jean-Marie Laclaftine et Michel Rostin. Si je pense à ma mort, je me gâche la vie. Si je n'y pense pas, je m'aveugle. C'est ce que dit le narrateur de ce roman, Michel Rostin, qui se pose cette question que je vous retourne. Tiens, comment trouver le bon angle pour parler de la mort sans frime ni déprime ? Le Vieux vient de paraître, c'est aux éditions Kalman-Lévy, un roman. L'histoire d'un metteur en scène de 78 ans, qui s'appelle lui-même ainsi, hein, d'ailleurs, Le Vieux. Tout bascule le jour où le jeune assistant à la mise en scène d'un opéra, La Flûte enchantée de Mozart, se suicide. Et voici notre vieux aux prises avec ses propres questions sur la mort, et notamment sur la mort volontaire, la mort en fin de vie, l'euthanasie, dont on débat actuellement, vous le savez, au Parlement, mais aussi ses questions sur les superstitions, sur les rituels, et tout cela grâce à une curieuse rencontre, une rencontre non pas avec une femme rabbin, Delphine Horviller, mais avec une femme sorcière, celle qu'on appelle, en Bretagne, la Kébène. On va commencer, si vous voulez bien, par la rencontre entre le vieux et ce jeune homme, Simon. Elle a lieu alors que le jeune homme écoute une émission sur la mort volontaire. Quel garçon écoute des podcasts sur le suicide, Michel Rostin?
C'est toujours un mystère, les gens qui se suicident. Après leur mort, on se demande « qu'est-ce que j'ai loupé ?» On se sent toujours un peu coupable. Les regrets, c'est un peu ça. À mon avis, les regrets qu'on a, c'est ce qu'on n'a pas donné à quelqu'un qui l'aurait peut-être permis de vivre. C'est étrange, un jeune homme de 20 ans, 25 ans, qui ne pense qu'au suicide. C'est ce type-là. C'est ce Simon, c'est ce jeune assistant qui s'intéresse à ça, et dans le roman, en écrivant, je ne suis pas arrivé à démêler pourquoi il...
Votre vieux, d'ailleurs, se pose la question que vous évoquiez dans les mêmes termes, frime ou déprime. Est-ce qu'il s'agit d'une attitude de dandy, comme beaucoup de jeunes qui peuvent être fascinés par ce côté macabre, auquel cas, bon, ça lui passera, comme on dit, ou au contraire, a-t-il réellement des envies suicidaires ?
Le suicide de ce jeune homme sert au vieux, surtout, à trouver son propre chemin vers sa mort à lui. Et c'est peut-être ça que le passage par ce jeune homme, par ce jeune comédien, ce détour, car c'est un vrai détour, en tout cas, était indispensable pour moi, pour trouver la suite.
Ce jeune homme se promène avec, d'un côté de sa poche, une flasque de tequila, et puis dans l'autre poche, ce livre, Au-dessus du volcan, de Malcolm Lowry. Pourquoi ce livre, Michel Rostin, est-il si important ?
C'est un livre culte. Et c'est un livre culte, c'est un livre fou, c'est un livre illisible d'une certaine façon, et c'est un livre dont on ne peut pas se séparer en même temps. C'est un livre étrange, et pour cet homme, c'est peut-être un laissez-passer pour son alcoolisme.
Car, il y a une secte des lecteurs de Malcolm Lowry, tout de même. Vous y appartenez, Jean-Marie Lacafine ?
Oui, ce livre a été très, très important pour moi, et puis pas seulement celui-ci, mais Malcolm Lowry est un personnage, un écrivain tellement puissant, insaisissable, qui nous touche avec violence. Et puis, la violence est une grande qualité en littérature. Il y a tellement d'écrivains qui ne le sont pas assez violents. Lui, il l'était totalement, absolument, et c'est pour ça qu'il reste avec nous.
Vous posez, Michel Rostin, la bonne question. Page 81, je cite. « Par quel bout prendre un vieillard qui vous parle de la mort ?»
C'est une chose qui... Et encore aujourd'hui, quelqu'un me dit oh, « Bon, on n'est pas pressé que tu... » Attendez, j'ai 78 ans. Il vaudrait mieux m'en parler aujourd'hui où je suis à peu près bien portant, où je peux en parler même en rigolant. Mais enfin, je peux en parler, quoi. Et il vaudrait mieux m'en parler de telle sorte que je vous donne l'autorisation et que je me donne l'autorisation d'en reparler au moment où ça sera vraiment chaud. Je me souviens d'amis vraiment à l'article de la mort. Et je me dis, il faut peut-être parler de ça parce qu'il est vraiment pas bien et tout. Mais non, il ne voulait pas. Et puis c'est vrai, il avait raison. Et puis je n'allais pas l'emmerder avec ça. Il était à deux doigts de toucher la mort et on n'en avait jamais parlé, il ne m'avait pas donné l'autorisation d'en parler. Non.
Mais là, vous allez plus loin, vous faites ce que Delphine Horviller fait en réalité. Vous écrivez « Ne vous dérobez pas », au contraire, accueillez sa proposition, aidez-le à parler de sa propre mort. Tout est dans le verbe « aider ». Aidez-le à parler de sa propre mort, parce que parler de sa propre mort n'est pas naturel, c'est pas quelque chose que nous pouvons faire s'il n'y a pas ce geste, ce corps face à nous, et puis surtout cette voix, ces verbes.
Il y a... Je crois que notre société, peut-être c'est au-delà de notre société, peut-être que ça nous dépasse, ne veut pas parler de la mort. En tout cas, on l'escamote beaucoup. Il n'y a plus le moindre trace possible de la mort. Il y a des morts, on parle de mort à la télé, il y a plein de jeux télévisés, mais la vraie mort, la mort de... Non, un corbillard qui passe, un glas qui sonne, non, ça on n'entend plus. Ça ne fait plus partie de... On fait le vide. Et si quelqu'un dit, quand je vais mourir, je voudrais ça ou ça, je ne sais pas comment je vais faire et tout... Oh là là, mais je trouve que c'est une bénédiction.
C'est surtout de pouvoir en parler.
De pouvoir en parler, ça veut dire parlons-en. Parlons-en, parce qu'il y a un moment où j'aurais besoin de mots, j'aurais besoin de chaleur, j'aurais besoin de corps, j'aurais besoin de présence. Et si nous en avons parlé, ça sera plus simple.
Oui. Mais ce qui me frappe, c'est que votre personnage, lui, tire cela du côté de la joie. J'emploie le mot à dessein, c'est-à-dire qu'il a... il est amoureux. C'est un éternel amoureux, hein, votre vieux de 78 ans. Il est un petit peu amoureux d'une jeune femme metteur en scène qui a 30 ans de moins que lui. Bon. Et puis, il est très amoureux de la femme avec qui il partage sa vie depuis maintenant 40 ans. Au point d'ailleurs qu'il envisage, dans quelques années, quand tout cela n'ira plus très bien, quand les corps nous trahiront, dit-il, de partir ensemble. Tiens, tous les deux. Sauf que c'est interdit. Enfin, aujourd'hui. Faut-il le rendre autorisé, légal ?
Écoutez, dans le livre, y a un tour de passe-passe, un tour de magie. Tout d'un coup, on bascule dans l'utopie. On rêve que les députés, la semaine dernière, ont voté l'autorisation de la mort assistée médicalement. C'est un rêve, apparemment.
Ah oui, ça, c'est de la magie.
Ça ne s'est pas passé, mais voilà, rêvons très fort, et peut-être que ça arrivera bientôt. Personnellement, je ne vois pas au nom de quoi on peut m'empêcher, moi, alors je parle de ma mort, là, je ne parle plus du livre seulement, d'espérer que je pourrai, au moment où je pense que ma vie ne pourra plus être une vie féconde, une vie, de dire, bon, voilà, j'arrête. J'espère bien que ça arrivera tard, ce moment-là, j'espère bien. Et alors, là, je reviens au roman.
Pardonnez-moi, mais c'est le socle de votre roman, en réalité.
Oui, bien sûr.
Ouais. Oui. Et vous dites aussi une chose, vous dites, moi, je suis un enfant de Sartre, de cette génération qui a grandi au théâtre avec Le Diable et le Bon Dieu, et puis qui a lu aussi l'idée sartrienne que nous sommes les auteurs de notre vie. On est ce que l'on fait. Pas seulement ce qu'on dit qu'on fera. C'est performatif, la vie. Tiens, abracadabra, c'est ça, Delphine Horvilleur ?
Oui, c'est exactement le sens. Tout le monde connaît ce mot, abracadabra, mais les gens ne savent pas ce que ça veut dire. C'est, il a fait comme il a dit. C'est de l'araméen, hein, c'est ça. C'est la parole performative, hocus pocus. C'est, voilà, le fait
je savais bien que Sartre était un petit peu magicien, quand même. On voit où il a été chercher ça. Bon, toujours est-il que cette idée qu'on est l'auteur de notre propre vie... Après tout, si je vous lis attentivement, la suite logique, c'est que je dois être auteur de ma propre mort. En tout cas, je le peux. Oui.
C'est très orgueilleux, hein. C'est très orgueilleux, ce personnage. Très ambitieux, en tout cas, pour lui-même et pour... voilà, je préférerais que ça ne m'échappe pas trop. Je préférerais que ça ne m'échappe pas trop. Là, dans le roman, il faut commencer... Vous avez dit, c'est un amoureux. Ce roman est une déclaration d'amour.
Oui. C'est, à la vie
c'est à la vie et à la compagne de cet homme, de ce vieux. Lorsqu'le roman commence en disant « Je te confie ce manuscrit, tu vas voir, c'est pas une histoire triste, ça parle que de suicide et de mort, mais pas du tout. C'est une histoire d'amour pour toi. Et puis tu vas voir à la fin, je vais arriver à te dire mon amour à travers ce vieux. » qui dit son amour à sa compagne.
Vous êtes le seul quand même à réussir à dire votre amour à travers la mort, en gros, en disant, allez, mourons ensemble, c'est une façon de mieux s'aimer, d'aimer la vie, mais aussi de mieux s'aimer.
Non, c'est d'aller au bout de la vie, de notre vie. C'est pas une façon de mieux, c'est une façon de mieux vivre. Et puis, lorsqu'on peut plus vivre, parce que vraiment c'est fini, on est au bout du rouleau, on arrête. Et on arrête ensemble. Là, c'est un plaisir qu'on se paye. C'est un dernier plaisir qu'on se paye.
Vous le racontez, c'est une scène d'un hédonisme total. Quel regard, Delphine Horvilleur, en tant que rabbin, portez-vous sur ce que vient de raconter Michel Rostin et sur ce roman que vous avez lu ?
La question qui revient en permanence dans ce débat, c'est la question de la dignité. Et on sait bien qu'on peut pas... Il y a quelque chose d'indigne à vouloir définir à la place de quelqu'un d'autre ce que serait... sa dignité, d'où la problématique du débat public. Comment on détermine ce qui est digne et ce qui ne l'est plus dans la vie? Moi, ce qui me semble troublant, c'est que bien sûr, notre mort doit nous appartenir, mais à la fois, elle ne nous appartient jamais complètement, parce que notre mort, elle appartient aussi à ceux qu'on laisse quand même, à ceux qui vont devoir faire avec notre mort. Donc on n'est jamais complètement seul à prendre la décision, même quand on la prend seule dans la mort. C'est toute la complexité du débat. Je suis heureuse de ne pas avoir à voter, moi, dans ce moment-là.
Je comprends très bien que c'est très compliqué de faire une loi sur ce sujet. Je vous approuve totalement. Et je me demande même si une loi est possible. Mais ce qu'il y a de terrible, c'est qu'après tout, si je suis bien informé, il y a 50 ou 60 ans, on se débrouillait. pour ne pas laisser les agonies, les gens souffrant de maladies terribles, de vieillesse terrible, pour ne pas les laisser dans des souffrances et une indignité affreuse. On se débrouillait, le médecin. Mais maintenant, c'est plus possible. C'est plus possible. Il peut y avoir plainte dans un service, un aide-soignante, un infirmier, dans la famille. Acharnement. C'est plutôt l'acharnement. Alors, il y a eu des lois disant que. On essaye de tempérer ça. Mais voilà, je ne comprends pas que...
Je crois que ça a à voir aussi avec ce que vous disiez avant, c'est-à-dire le fait qu'on ne veut plus en parler. Les gens ne veulent plus... Il fut un temps où, je crois, par exemple, quand il y avait un mort dans un immeuble, on mettait des bandeaux noirs sur les portes. Moi, quand je me promène dans Paris, j'adore voir toutes ces plaques qui disent « Ici est mort et décédé telle ou telle personnalité ». Il fut un temps où la mort avait sa place dans nos vies, dans les discussions, dans les immeubles, dans les rites, même de quartier. Et en fait, le vrai souci qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a fait comme si on pouvait la tenir complètement à distance en lui
disant...
Ce qui
est une illusion, dites-vous et écrivez-vous tous les trois. Comme ces parois hermétiques
on fait comme
qui,
si la mort
en réalité,
allait...
ne protègent de rien.
Oui, ou comme si elle allait nous rendre visite uniquement dans les EHPAD, aux heures de fermeture au public, à un moment où on ne pourrait pas la voir. Et en fait, ça ne se passe pas comme ça dans les faits. Mais on fait, effectivement, on ferme les yeux là-dessus. Et si on n'est pas capable d'avoir ces conversations... Alors, il y a un dialogue manquant.
On passe à côté de l'essentiel, écrivez-vous, Michel Rostin. Si l'on n'est pas capable de parler sereinement, si possible, joyeusement, on boit beaucoup dans votre livre. Dans les livres de la Clavetine, on boit tout le temps, dans les romans, un peu moins dans les récits, mais beaucoup dans les romans. Mais alors, chez vous, dites donc, qu'est-ce qu'on descend? C'est joyeux de parler de la mort. Tequila, mezcal, vin blanc, vin rouge...
On retrouve la sorcière, la concierge, ce personnage que j'ai beaucoup aimé écrire.
Alors, il faut que vous nous racontiez, parce qu'on a parlé du droit de mourir dans la dignité. Il y a énormément de choses dans votre roman. Et puis, un personnage. Tiens. Et alors, ce personnage, Delphine Horvilleur, vous l'avez adoré. C'est la Kébène. Qu'est-ce que la Kébène?
Il est lumineux. C'est la concierge du théâtre. C'est l'epsilon, le personnage... qui compte le moins, c'est pas un régisseur, c'est
comment
pas un acteur.
Comment écrivez-vous compter?
Pardon?
Comment écrivez-vous compter? Vous dites elle compte le moins, mais dites donc qu'est-ce qu'elle compte?
Elle compte beaucoup.
C'est la conteuse.
Et alors, justement, elle a toujours plein d'histoires à raconter, elle est bavarde, c'est une bavarde. Elle est un peu emmerdante de temps en temps, parce qu'elle en rajoute, elle en rajoute. Mais elle accueille. J'ai beaucoup aimé dans votre livre, vous venez d'en parler tout à l'heure, cette fonction de raconter, de se mettre à la porte et de faire en sorte qu'elle reste ouverte. Avec les contes de cette concierge, il y a des portes qui restent ouvertes. À la fois, elle console les chanteurs de le spectacle, il faut dire, on ne l'a pas dit, on arrive en pleine répétition d'un spectacle.
Enchantée de Mozart.
La flûte enchantée, et voilà un des acteurs, un des chanteurs de ce spectacle qui se suicide. Et tout d'un coup, ça fout en l'air, mais ça, vous voyez l'ambiance, on est en train de travailler là, paf, un suicide, ça casse tout. Et tout le monde est paumé, là, justement, quand la mort arrive... tremblement, il y a quelque chose qui est... Et là, on va chez la concierge. On va chez la concierge parce qu'elle va vous donner un thé, une soupe, des crêpes, parce qu'elle fabrique des crêpes, c'est une bretonne. Et puis, elle va vous raconter des histoires. Et notre vieux va la voir et elle lui raconte la mort de Simon. Mais c'est un vrai conte.
Pour raconter ce que fut la vie de Simon, ce jeune homme qui s'est suicidé, la Kébène... convoque l'encou. Alors peut-être faut-il rappeler, Michel Rostin, à ceux qui n'ont pas suffisamment arpenté la langue bretonne, ce qu'est l'encou.
L'encou, c'est la figure de la mort, c'est la figure qui annonce la mort. Dans notre tradition, ça pourrait être la charrette, ça pourrait être... si vous voyez l'encou apparaître, la mort n'est pas loin. Voilà. Et la Kébène voit la mort. Et alors, dans votre livre, il y a
un ange.
Un ange, voilà, qui est pareil. Oh là là, s'il apparaît, La mort est pas loin. Et la Kébène, qui est une sorcière extrêmement avisée et attentive à toutes ces choses qui nous entourent, qui croit aux fantômes beaucoup, qui se démerde avec eux comme ça, là, et qui fait tous les gestes magiques qu'il faut pour qu'ils ne soient pas trop envahissants. Mmh. Et elle a repéré que Lancoux traîne dans le théâtre. Et puis Lancoux la réveille pendant la nuit. Elle lui dit « Attention, il y a Simon là ». Et puis, comme elle a des doutes, et comme il faut que les portes restent ouvertes, elle raconte plusieurs versions différentes de la mort de Simon, jusqu'à peut-être laisser entendre que c'est peut-être elle qui l'a poussé. Mais c'est pas sûr, mais c'est pas sûr. Elle est extrêmement, comment dire, féconde dans cette conteuse. Mmh. C'est une conteuse.
Mmh. Tiens, Michel Rostin, page 104, je cite « L'histoire de Simon ». Qu'elle raconte, la Kébène, au vieux, ne cherche pas à être exacte. En sera-t-elle moins vraie pour autant ? Pas du tout. La Kébène ne se sent pas obligée d'être factuelle, objective, distanciée et lucide pour dire la vérité.
C'est important, ça, ce distinguo entre la vérité et l'exactitude. J'ai eu la chance de travailler auprès de Jean Houry, un psychiatre, et de Félix Guattari. Et c'est eux qui m'ont... les premiers qui m'ont dit « Attends, c'est pas parce que c'est exact que c'est vrai. Mmh. Et c'est pas parce que c'est vrai que c'est exact. Il faut absolument... »
Quelle est la nuance ? Quelle est la frontière, la lisière ?
C'est considérable. C'est considérable. L'exactitude ne nous parle pas, ne nous raconte rien. C'est ce qu'on va dire de l'exactitude.
C'est le choix des mots. Quitte à ce que je m'écarte un peu.
C'est l'âme qui... c'est la palpitation, c'est la sensation, c'est la musique des mots, c'est le contact, le rayonnement des mots qui vont donner une vérité ou pas au fait.
C'est ce qu'on trouve par exemple page 53 du nouveau livre de Jean-Marie Laclaftine. Tiens, bientôt, en effet... Tout n'est plus qu'un récit. Nos vies n'ont pas le temps d'être vécues que déjà elles sont racontées. Passées dans le broyeur, infatigable de la mémoire, les voilà recomposées, repeintes, bricolées, arrangées, décorées. Finalement, c'est la vérité ou la légende qui importe le plus ?
C'est la différence entre les deux, c'est l'interstice entre les deux, entre les faits avérés, mais tels qu'on se les remémore, c'est-à-dire avec beaucoup d'incertitude quand même, et le récit qu'on en fait. Et entre cette vérité objective, disons, des faits, et le récit qu'on en fait, il y a le souffle de la vie. C'est là que, moi, quand je m'en suis particulièrement rendu compte, j'ai passé ma vie à inventer des histoires, évidemment, mais... quand je me suis mis à raconter la vérité, je me suis rendu compte que la vérité, elle était absolument insaisissable et j'ai trouvé ça merveilleux. J'ai trouvé ça, quand j'ai commencé à écrire sur la mort de ma sœur, après 50 ans de silence, j'ai essayé d'être très sérieux, d'être très authentique, sincère. Et, sincère, je l'ai été, mais j'ai commencé à raconter des choses que je pensais vraies, et je me suis rendu compte qu'elle ne l'était pas du tout, que je m'étais trompé depuis 50 ans parce que je pensais que telle chose s'était passée à tel endroit, que enfin, les faits sont irrattrapables, et au lieu d'en être déprimé et consterné, j'en ai été absolument réjoui, parce que la vie, elle est là, la vie, elle est dans ce comique de notre course après une vérité qui, de toute façon, est irrattrapable. Mmh. Et j'ai trouvé ça merveilleux.
Vous trouvez merveilleux de jamais savoir la vérité, oui, sur vos morts ?
Oui, bien sûr, parce qu'on ne sait jamais, ni sur les morts, ni sur les vivants. Et moi, les vivants et les morts, je les mets vraiment sur un pied d'égalité. Hein, c'est... Oui.
Donc, Michel Rostin, vous aussi, vous les mettez sur un pied d'égalité, les vivants et les morts ?
D'une certaine façon, je dirais oui, mais peut-être que je n'entends pas exactement la même chose. Les morts sont... Ils vivent encore. Les morts dont je parle. Les morts qui vivent. Mmh. Voilà. Ils vivent encore. Ils vivent encore, ça veut dire ils vivent. Je les fais vivre, je vis avec eux. Ils vivent encore, ça veut dire quoi? J'aime beaucoup ce mot, je l'ai appris il y a longtemps à la fac, quand je faisais des études de philo. Ad ancoram, jusqu'à cette heure-ci, ils vivent. Avec un accusatif de durée, j'ai appris quand je faisais du latin, ça dure. Il dure encore en moi. Il dure encore en moi, ça j'en suis convaincu. Et donc, oui, ces morts-là, c'est absolument, ils sont vivants.
Lyon, votre fils, qui est mort à l'âge de 21 ans, emporté par une méningite, vit encore 10 ans après le livre que vous lui avez consacré, qui était un livre écrit rapidement. Il n'y a pas eu les 50 ans de silence dont parle Jean-Marie Laclaftine. Comment vit-il ?
J'ai beaucoup de difficultés à parler de ça. Pardonnez-moi. À tel point que, quand ce livre est sorti, c'est évidemment qu'il a à voir avec la mort de mon fils. J'ai refusé de faire des débats publics. Puis on m'a proposé d'aller faire une série de débats en Norvège. Beau voyage, 7 conférences à faire. Et je me disais, merde, comment je vais faire? Et j'ai dit oui, mais en anglais. En anglais, je suis arrivé à parler de ça. Voilà, donc excusez-moi, mais c'est pour dire, je ne vais pas parler en anglais parce que je parle très mal anglais en plus. Voilà, mais j'ai dit à mon éditeur, peut-être que j'aurai un livre posthume, voilà. Peut-être que je ne serai pas là pour en discuter. Voilà.
Là, si, vous serez là.
Ma douleur, elle est ad ancoram, évidemment, mais innommable, indescriptible. Je n'ai rien à en dire. Et puis quand même, cette envie d'en faire un livre un jour, encore. Donc, j'en parlerai pas sur ce plateau. Pardonnez-moi.
Le vieux, de Michel Rostin, c'est aux éditions Kalman Lévy. Avant d'ouvrir les livres de Jean-Marie Laclaftine, parce que je trouve qu'il faut vraiment les lier et les lire. Célébrons encore le pouvoir des conteurs avec la lecture à voix haute. Et notre grand concours, si on lisait à voix haute, la finale, vous le savez peut-être, se déroulera au mois de juin prochain et nous connaîtrons très bientôt le nom des 10 finalistes retenus parmi 140 000 jeunes inscrits cette année. Alors, en dépit des difficultés actuelles, un écrivain s'est rendu il y a quelques jours dans une classe participante pour prodiguer ses conseils. Mieux lire à voix haute, il s'agit du romancier et poète Louis-Philippe d'Alembert. Il a été voir, Louis-Philippe d'Alembert, les élèves de la classe de 4e D du lycée Guillaume Vantaux. C'est à Menton, dans les Alpes-Maritimes. Et, comme chaque jour, chaque semaine, cette rencontre est réalisée dans le respect des gestes barrières et a été filmée par les élèves eux-mêmes. Regardez.
Respirez, vraiment, ne vous précipitez pas. En plus, avec le masque, il faut encore articuler encore plus que d'habitude. Donc, n'ayez pas peur d'articuler, d'insister sur l'articulation.
Je vais lire le Orla de Maupassant.
Donc, tu t'arrêtes bien, là, quand tu prends les paragraphes et tu dis, bien, tu prends bien compte, c'est bien, c'est tout à fait ça.
Ayant enfin reconquis ma raison, j'ai soif de nouveau. J'allumais une bougie et j'allais vers la table où était posée ma carafe. Je la soulevais en la penchant sur mon verre. Rien ne coula.
Attends, tu vois, par exemple, tu as dit « j'ai allumé une bougie ». Donc, tu prends le temps d'allumer la bougie. Parce que tu dis « ah, j'ai allumé une bougie ». Non, tu prends le temps d'allumer. Imagine que tu allumes la bougie. Donc, ça demande un petit peu de temps. Tiens, on va essayer de le faire ensemble. J'allumais une bougie et j'allais vers... J'allumais une bougie, une petite pause. Et j'allais vers la table où était posée ma carafe. Tu vois, donc, parce que tu as tendance à enchaîner tout de suite sans respirer. Donc tu respires un petit peu et tu continues. OK ?
L'avare de Molière, acte 1, scène 3. Ne serais-tu point homme à aller faire courir le bruit que j'ai chez moi de l'argent caché ? Vous avez de l'argent caché ? Non, coquin, je ne dis pas cela. J'enrage. Je demande si malicieusement tu n'irais point faire courir le bruit que j'en ai.
Au début, tu te précipitais un peu trop. Mais par la suite, tu as retrouvé le rythme comme il fallait. Mais au début, tu étais...
Enfin, je tremblais un peu aussi.
Et c'est normal, c'est pour ça qu'il faut s'habituer au texte. Et à partir du moment où on respire bien, on va voir, il y a une bonne partie du stress qui retombe, quoi, du trac qui retombe. Donc la respiration est vraiment fondamentale, quoi. D'accord. Et tu as bien fait. Bravo.
La lecture à voix haute, qui lit à voix haute? Delphine Horviller, vous intervenez à voix haute, mais est-ce que vous lisez aussi à voix haute les écrivains que vous aimez, les Gary, les Bassevis Singer, etc.?
Alors moi, je lis à voix haute et je ne sais pas lire sans stylo. C'est mes deux... J'écris dans les livres et je lis toujours à voix haute, ou presque.
Jean-Marie Laclatine, vous pratiquez la lecture à voix haute aussi? Vous avez un gueuloir ou pas?
Non. Non, mais j'aime lire à voix haute un texte et, ou l'écouter, mais ça n'est pas une pratique constante et régulière.
Michel Rostin, vous qui avez été metteur en scène, c'est devenu aujourd'hui une véritable, un véritable engouement, la lecture à voix haute sur scène par des grands comédiens.
Non, je vais vous répondre à côté, excusez-moi, mais j'ai cru, pour mes précédents livres, Philippe Robinet, mon éditeur, a eu la générosité d'accepter qu'avant d'arriver à l'épreuve au bon à tirer, on relise à voix haute tout mon livre. J'avais besoin de ça. Parce que quand je relis à voix haute chez moi, voilà. Mais à quelqu'un, alors il fallait de la patience. Merci. Merci. Et voilà.
Jean-Marie Laclaftine. Alors, vous avez publié, je rappelle un peu les faits, il y a 2 ans, un récit intitulé « Une amie de la famille ». On peut le lire, il est chez Folio. Récit consacré aux 50 ans de silence qui ont englouti votre famille après la disparition de votre sœur, Annie, à l'âge de 20 ans, alors que vous en aviez 15, vous. Dans votre famille, on n'en parlait pas de ce drame survenu le jour de la Toussaint 1968 à Biarritz, lorsqu'une vague a emporté votre sœur. Et puis après la publication de ce livre, eh bien de très nombreuses personnes vous ont écrit, se sont manifestées, des fantômes ou des revenants qui peuplaient votre livre. Et puis ces deux, aujourd'hui, dont vous voulez parler dans ce nouveau récit bouleversant qui est aussi un formidable éloge de la littérature, la vie des morts, qui vient de paraître aux éditions Gallimard, où vous êtes éditeur. Alors, on découvre d'emblée que les livres, en réalité, publier un livre, c'est un extraordinaire pouvoir. Les livres sont ce territoire où peuvent coexister, Jean-Marie Laclaftine, les vivants et les morts, comme s'ils avaient besoin d'un lieu pour s'incarner?
Oui, c'est un lieu qui n'a pas de limite, en fait. C'est ce qui est merveilleux et éblouissant dans la littérature, c'est que c'est un territoire de liberté absolue où les vivants peuvent rencontrer les morts et où nous pouvons parler la même langue que les autres humains.
Mais pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait des réactions. Vous attendiez-vous à recevoir autant de courriers et surtout, j'allais dire, de courriers concernés? Il y a celles et ceux qui, dans ce livre, disent « Votre sœur est ma sœur ». Vous atteignez l'universel en parlant d'elle. Mmh. Et puis, il y a également ceux qui disent « Mais moi, je l'ai bien connue. Voici telle photo. » Ah non, Laclaftine, vous vous trompez, Jean-Marie, quand vous écrivez que c'est à tel endroit. C'est plutôt à tel autre. Et puis, il y a, ce qui est absolument incroyable, 50 ans plus tard, l'un des 4 jeunes surfeurs qui avait plongé dans les vagues pour tenter de ramener votre sœur à la vie, qui vous écrit, que vous rencontrez.
Oui.
Vous vous attendiez à cela en publiant le premier récit?
Pas du tout. J'ai été vraiment très surpris et bouleversé par les réactions. En effet, par tous ces gens que je ne connaissais pas, qui n'ont pas connu ma sœur, qui me disaient « Votre sœur est devenue ma sœur », comme si les mots qu'utilise un de mes amis, Bertrand, il m'a dit un jour, lui aussi a perdu 2 sœurs. Et il me dit « En lisant ton livre, on voit que la littérature, elle mélange les sangs, comme si ta sœur était devenue la mienne, comme si mes sœurs étaient les tiennes. » Et dans cette image du mélange des sangs, je trouve qu'il y a quelque chose de très vrai, de très puissant. Mais en effet, il y a eu aussi ceux qui se sont découverts à moi parce que j'ignorais leur existence, mais ils avaient connu ma sœur, certains avaient été amoureux de ma sœur. Donc j'ai découvert toute une réalité de sa vie que je ne connaissais absolument pas. Et puis, il y a cette rencontre, en effet, de Jacques Fagald, qui est donc un des jeunes gens. Ils étaient quatre, ils se sont jetés à l'eau. Les pompiers, la mer était vraiment mauvaise. Et les pompiers avaient renoncé.
C'est une expression, pardon de vous arrêter là-dessus, mais vous l'employez, cette expression de la langue française. Comme Delphine Horviller, vous les scrutez, ces expressions qui sont toutes faites et qui ne veulent rien dire. La mer était mauvaise, mais est-ce seulement la mer qui était mauvaise?
Oui, c'est vrai, mais toutes ces expressions autour de la mer, autour des vagues, m'ont beaucoup travaillé, parce que dans ces 50 ans de silence, il y a eu cette vague qui nous a emportés. Moi, je m'en suis sorti, et mon frère aussi, et Gilles, l'amoureux de ma sœur aussi, mais elle en est morte. Mais cette vague, elle a continué pendant 50 ans à venir, à se retirer, à revenir, et à transformer ma vie, nos vies, mais la mienne en particulier. Je ne serais pas là ce soir si cette vague-là n'avait pas emporté ma sœur ce jour-là. Je ne serais pas devenu écrivain.
Vraiment ?
Ah oui, mais ça, j'en suis absolument sûr et certain.
Vous dites, je suis né à 15 ans. Il aura fallu ta mort pour que je naisse au monde. Oui. Mais qu'est-ce que cette mort a permis en vous ?
C'est quelque chose d'un peu affreux à dire quand même. Oui, si le grain ne meurt, pardon, mais il faut qu'il y ait une mort pour qu'une vie apparaisse. Et j'ai l'impression que je dois en quelque sorte une part de ma vie à ma sœur, parce qu'elle est morte, pour me donner cette part de ma vie. Et évidemment, je ne peux plus vraiment lui dire merci, sinon en écrivant, en la faisant revivre, c'est-à-dire non pas en gravant une stèle, en gravant dans le marbre, on parlait tout à l'heure de la vérité, mais la vérité, quand elle est arrêtée, quand elle est figée, c'est la mort. C'est la seule vraie vérité qui est absolument incontestable, inéluctable, c'est la mort, parce que c'est l'absence de mouvement. Mais la vérité de ma sœur, ou des autres personnes dont je parle, quand j'écris, c'est une réalité, c'est une vérité tout à fait mouvante, incertaine, et dans cette incertitude, je trouve du bonheur.
Alors, comment parler de la mort? On a évoqué quelques pistes tout à l'heure avec vous, Delphine Horviller, accepter d'en parler. Michel Rostin va encore plus loin en disant non, il faut à tout prix faire en sorte que l'autre réussisse à en parler. Et vous, Jean-Marie Lacaftine, vous dites, lisez. Tiens, la mort, à 15 ans, vous racontez que vous étiez déjà en terrain familier, en terrain ami, par la grâce d'un livre. Ah. Peut-être l'un des plus beaux passages de toute la littérature mondiale, Le Vicomte de Bragelonne, dernier volume. Nous sommes à Belle-Île-en-Mer, dans la grotte de Loch Maria. C'est le troisième volume des Trois Mousquetaires. Et là, meurt Porthos.
Mon ami, oui.
Notre ami, pardon, à tous.
Oui, mais je le partage volontiers. Oui.
La mort de Porthos, mais c'est extraordinaire. Quel âge avez-vous lorsque vous lisez ce passage d'Alexandre Dumas ?
Je pense que j'ai 12-13 ans, mais bon, là encore, je me méfie terriblement de mes souvenirs.
Alexandre Dumas dit qu'il a pleuré quand il a écrit cette scène de la mort de Porthos. Oui. Qu'est-ce qu'elle a déclenché chez vous ?
Mais chez moi, ça a été non seulement une sensation de deuil, de perte. Donc ça, c'est quelque chose de très fort, parce que pour la première fois, je me rendais compte. J'étais un très grand lecteur, je lisais tout le temps. Mais donc, ce jour-là, mais je m'en souviens, je l'ai souvent raconté, parce que c'est un épisode de ma vie qui a énormément compté. Je disais tout à l'heure que je mets sur un pied d'égalité les morts et les vivants, mais parmi les morts et les vivants, je place les personnages de la littérature qui m'ont toujours accompagnés et qui nous ont accompagnés. Porthos est votre ami, évidemment, mais il est l'ami de beaucoup de gens. Mmh. Et ce jour-là, je me souviens très bien que je suis rentré en courant du lycée ou du collège et pour retrouver Aramis et Porthos qui étaient pourchassés par les cavaliers du roi, qu'un destin cruel avait mis sous la direction de leur ancien ami D'Artagnan, qui était toujours encore un peu leur ami quand même. Mmh. Mais ils n'avaient pas choisi le même camp. Et D'Artagnan faisait ce qu'il pouvait pour retarder la galopade des cavaliers du roi derrière les deux fuyards. Et Aramis et Porthos arrive dans la grotte de Loch Maria. Moi, je suis là sur mon lit. Il est 6 heures du soir ou 7 heures du soir. Je dévore les pages et je suis certain que Dumas va sauver, comme il l'a toujours fait. Il va sauver Porthos, il va sauver Aramis et nous partirons pour de nouvelles aventures. Et je vois que non. À un moment, Porthos balance le baril de poudre sur les poursuivants, énorme explosion, les rochers tombent, s'effondrent sur la bande des cavaliers du roi qui sont terrifiés. Mais Porthos, au moment de se retourner et de suivre Aramis vers le salut, est pris d'un arrêt du cœur et il ne peut pas avancer. Et donc, à ce moment-là, je me rends compte que ça n'est plus une plaisanterie, Porthos est vraiment mort. Et je ressens un vide incroyable, enfin une émotion terrible, et une voix retentit, celle de ma mère, qui dit « à table ». Et là, je suis confronté à quelque chose de tout à fait vertigineux et de passionnant. Je me dis « il va falloir que j'aille manger, c'est pas possible ». Je suis incapable. Je suis... Alors, mon père vient me chercher par la peau du cou, il m'amène à table. Je me rends compte que les gens qui sont autour de moi, des gens que j'aime, enfin ma famille, ils sont totalement inconscients de ce qui vient de se passer. Ils ne savent pas que Porthos est mort et que je viens de perdre un être cher. Donc, et je me dis que... Enfin, je ne sais pas si je me le suis dit à ce moment-là, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup travaillé. Je me suis rendu compte que cette mort de Porthos, elle était chargée de bonheur. Mais pourquoi ? Pourquoi on aime les livres tristes ? Pourquoi on aime les livres où Anna Karenine se jette sous un train, où Emma Bovary boit du poison ? Pourquoi on adore ça ? Pourquoi on est émerveillé ? C'est parce que ces livres, ils nous permettent de comprendre que nous sommes capables de ces grandes émotions.
Vous avez remarqué, Delphine Horvilleur, qu'il parle de Porthos, d'Emma Bovary, d'Anna Karenine, et on pourrait en rajouter quelques autres, comme si c'était de véritables êtres.
Oui, parce qu'ils sont véritables au sens de la vérité dont on parlait tout à l'heure. Ils racontent la vérité, ils n'ont pas besoin de raconter la réalité.
Ils n'ont pas exactement
vécu,
mais ce ne sont pas seulement des légendes, ils sont vrais.
Oui, mais c'est la force des textes sacrés, quels qu'ils soient. Ils n'ont pas besoin de dire la réalité pour dire la vérité.
Vous avez dit sacré ?
Oui, sacré.
Le vicomte de Bragelonne, Anna Karenine, Madame Bovary peuvent être considérés comme des textes sacrés aussi.
Je crois, oui, je crois bien sûr qu'on n'a pas besoin de.
Mais qu'est-ce que ça fait
religion.
Du bien d'entendre ça.
Hein?
Mais oui.
Ils sont sacrés parce que ils transforment la vie des gens qui les rencontrent et qui racontent la vérité comme d'autres textes sacrés dont on a fait des religions.
Question, page 29, que vous posez, car ce livre est un questionnement permanent sur le souvenir, sur l'oubli, sur l'écriture qui peut réparer, sur la littérature dont on se demande parfois si elle console. Page 29, donc, l'écriture aurait-elle le pouvoir de ressusciter les morts ? Non, bien sûr. Mais elle fait sentir puissamment leur présence.
Oui, je crois qu'en effet, il y a quelque chose qui est de l'ordre du sacré, qui dépasse l'apparence triviale de nos existences quotidiennes. Et la littérature est un révélateur, ça fait apparaître ça.
Mais il y a une notion tout de même que vous ajoutez, c'est celle du partage. Pourquoi écrire ? Réponse de Jean-Marie Laclaftine. Il ne s'agit pas de s'exhiber, de provoquer, de s'apitoyer, de se mettre en avant. Écrire, c'est tenter de saisir en soi ce qui est plus précieux que soi et de le partager.
C'est essentiel. Pour moi, la notion de partage, c'est-à-dire quand on écrit, c'est justement pour partager. Partager quelque chose, quelque chose qui n'est pas forcément agréable, qui peut l'être. Hein. C'est partager des émotions, c'est partager le sentiment d'être au monde avec les autres. Écrire, c'est dire nous ne sommes pas seuls. Je ne suis pas seul, je suis avec vous, vous êtes avec moi.
Est-ce que ça apaise la douleur de la perte ?
Non, je ne cherche pas à ce que les mots édulcorent ou apaisent la douleur. Non, mais qu'elle la dise au plus près, dire la douleur ou la joie, être précis dans l'utilisation des mots, c'est être plus près de la vie, c'est vivre encore mieux et encore plus profondément et plus passionnément.
Michel Rostin.
On m'a souvent demandé, ça vous a fait du bien d'écrire Le Fils, après la mort de mon fils ? Et non, pas du tout. la douleur est la même après. Mais ce n'est pas ça qui a apaisé ma douleur. Écrire, si j'ai pu écrire, c'est que je pouvais écrire. Il y a eu des moments où je ne pouvais pas écrire. Donc il fallait que la douleur ait trouvé un régime de... Mais par contre, après la publication de ce livre, j'ai reçu des centaines de lettres. Je m'excuse auprès de ceux qui m'ont écrit, je n'ai pas pu répondre. Des centaines de lettres de personnes qui me disaient « Votre livre m'a fait du bien ». Mais qu'est-ce que je suis honoré d'abord, et puis touché par le fait qu'il y a eu du partage. Il y a eu du partage que si ça a servi à quelque chose, c'est pas mal. Ça, ouais. En plus du fait que moi, pour moi, écrire, c'était une chose qu'il fallait que je fasse, que j'écrive. Mais ce livre, c'est un petit peu ce que vous dites, sans ce livre-là, je ne serais pas devenu écrivain. Voilà.
Le véritable sujet de votre livre, Jean-Marie Laclavetine, me semble-t-il, c'est le silence. La manière dont le silence, est plus fort même que l'oubli, recouvre tout, crée une autre version de la vie, presque. Un lecteur vous fait remarquer qu'en réalité, vous aviez déjà parlé de votre sœur. Dans un livre, pardon, n'y voyez aucune malice, mais que tout le monde a oublié, même vous d'ailleurs.
Oui.
C'est votre premier roman, que voici, « Les Emmurés », publié en 1980. Vous aviez oublié que vous aviez transformé votre sœur en personnage de roman, réellement?
Ah oui, réellement. J'avais complètement oublié cet épisode parce que je raconte en effet une noyade. Et quand je vois le titre de ce roman, Les Emmurés, c'est quand même...
Oui.
Alors que j'ai mis 50 ans à comprendre que Les Emmurés, c'était nous, notre famille. Enfin, il y avait quelque chose. Mais le silence, vous dites le silence, c'est le sujet, oui, c'est vrai. Mais je ne dénonce pas le silence. C'est-à-dire, je ne considère pas le silence comme un tombeau. C'est beaucoup plus que ça, c'est beaucoup plus riche. C'est-à-dire que le silence peut en effet être délétère, et il peut détruire, mais il peut aussi conserver à la façon du drap blanc dont vous parliez tout à l'heure, bien cousu. Je parle, je crois, dans le livre de Daniel Cordier, que j'ai bien connu à la fin de sa vie.
Daniel Cordier, dont on rappelle qu'il fut grand résistant, secrétaire de Jean Moulin
pendant
la résistance.
Il a mené sa vie très jeune, la guerre, la résistance, et puis après, une vie complètement différente dans l'art. Et puis, des décennies plus tard, Jean Moulin étant attaqué, mis en cause, il se dit « j'ai le devoir de restituer la vérité ». Alors lui, c'est vraiment la vérité des faits, etc. Et il s'est aperçu que toute cette histoire à laquelle il n'avait plus pensé du tout pendant plusieurs décennies, elle était totalement intacte. C'est comme s'il avait ouvert un coffre et tous les souvenirs étaient là, extrêmement précis. Et le silence a cette vertu, quand même. Et c'est pour ça que souvent on dit « Ah, il faut parler, la parole libère », mais moi je ne crois pas du tout que la parole libère. Enfin, je ne crois pas qu'elle incarcère non plus. Enfin, je ne lui donne pas de pouvoir magique.
Croyez-vous au hasard, Jean-Marie Laclavetine?
Je ne sais pas. Je ne suis pas du tout philosophe, vous savez. Oui, je crois au hasard. C'est-à-dire que moi, dans la vie, je me laisse porter. Je pense que le hasard, en effet, il y a. Le monde est agité par des vents tellement contraires et tourbillonnants qu'il peut se passer des choses tout à fait imprévues par personne et imprévisibles. Mais l'important, c'est d'être prêt. Quand le vent souffle dans un sens, il faut être prêt à se laisser emporter et à suivre le vent. Il faut être disponible. Moi, c'est ça que je crois.
Parole de marin. Nous terminerons cette émission avec cette phrase d'Emmanuel Berle, citée par Jean-Marie Laclavetine et que je laisse chacun d'entre vous méditer. « Il est des morts plus vivants que les autres. » La vie des morts de Jean-Marie Laclaftine. C'est aux éditions Gallimard. Et une amie de la famille, c'est en poche chez Folio. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez repartir avec les livres de nos invités, Delphine Horvilleur, Jean-Marie Laclaftine et Michel Rostin, en répondant à la question qui va vous être posée dans un instant sur les réseaux sociaux de la Grande Librairie. Émission que vous pouvez voir et revoir en replay sur le site France.tv. Vous pouvez aussi l'écouter en balado-diffusion sur toutes les plateformes de podcast. Nous nous retrouvons pour parler littérature et lecture la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, tous les jours, sur les antennes de France Télé, La Petite Librairie. Dans un instant, Karim Rissouli et sa bande. À mercredi, bonne soirée et belle lecture. C'était La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.